Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve les menstruels, un collectif de correspondance à voix multiples. Des missives de femmes éparpillées en France et ailleurs. Pour chaque épisode, un thème est choisi pour composer les échanges. Ce mois-ci, le naufrage de la peur fait bugger leurs synapses. Quelques menstruels vont tout de même s'embarquer dans la tempête et possiblement trouver quelques îles merveilleuses et autres accalmies.
Note jaune pour le naufrage de la peur. Quand une limite, un stress, une angoisse, la peur reprend la narration et que colère fait enrager la rumination pour réveiller tristesse, alors c'est là la clé du naufrage, c'est là que je dois me dire, idée pourrie, naufrage de la peur. Tu vois ?
Est-ce que tu veux enregistrer ?
Est-ce que tu veux ?
Par contre, j'avais un cadeau pour mes premières règles. De ma mère, j'allais faire soin.
Tu te rends compte que tu viens de lancer le générique ?
J'écris les yeux fermés.
J'écris les yeux
fermés.
Je n'ai
pas besoin des lignes.
Et je sens le froid et les ombres qui m'entourent.
Ceux qui sont partis.
Dans un rêve, tout se mélangeait.
Son rythme ne faiblit pas.
Phrase quelconque, pensée quelconque.
Perdant nos sommeils et nos fourmis.
À se donner le tournis.
Elle est là.
Faire renaître un courant de traverse.
Nous rappelle à la vie.
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
La tempête s'annonce à ma mort.
Quoi ? Quitter la paralysie ?
Taisez-vous !
Quoi ?
La tempête s'annonce à ma mort.
Quitter la paralysie ?
Chères toutes, c'est la première carte que je vous écris et je galère un peu. Quand j'ai appris le thème, j'ai d'abord pensé aux fanzines de mon amie Claire Selma. Les histoires d'horreur sont toujours des histoires d'amour et de vengeance. Et puis, je suis allée discuter avec mon copain Pierrot, qui est fan de films d'horreur. Mais tout ça, je savais pas trop quoi en faire, et pour cause, c'est un peu loin de moi. Alors j'ai commencé à lister mes peurs, essayer de trouver un fil à tirer, mais rien de tout ça me semblait bien intéressant. Comme il fallait bien commencer quelque part, je me suis dit que j'allais enregistrer une lecture. Je fais jamais ça d'habitude, mais là j'avais envie de voir comment ça sonnait si je le faisais sur un téléphone. Donc j'ai ouvert mon appli Dictaphone, et là, je suis tombée sur le seul enregistrement qu'il contenait. Je l'ai lancé pour entendre ce que c'était, et puis j'ai arrêté très vite parce que d'un coup, je me souvenais trop bien. C'était un enregistrement pas très rigolo, fait pour des amis et qui m'a fait penser à une peur que j'ai eue à certaines périodes. La peur du téléphone qui annonce des mauvaises nouvelles. Mais bon, j'avais pas envie de parler de ça. C'est triste, je n'ai rien de nouveau à en dire et puis surtout j'aimerais bien parler d'autre chose. Mais je me suis dit quand même que c'était pas pour rien que le téléphone était souvent utilisé comme une menace dans les films d'horreur. Enfin souvent c'est l'idée que je m'en fais parce qu'en fait je regarde pas trop des films d'horreur. Alors après évidemment j'ai eu peur de jamais réussir à finir cette carte postale. Mais bon, à vrai dire je sais bien pourquoi je galère. Pour trouver quelque chose à dire il faudrait que j'accepte d'être un peu vulnérable et pour le moment quand il s'agit d'écrire j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui se coince dans ma gorge, dans ma tête, et puis il n'y a plus rien qui sort. Je sais même plus de quoi je pourrais parler. Alors c'est peut-être pour ça que je suis allée voir Pierrot et les textes de Claire Selma, parce qu'ils osent un peu plus aller voir ce qui se cache au sous-sol.
Bon, ça marche plus. Bon, moi ça doit pisser le sang. Hein. Ah oui, tu vois. Tu vois. Ça fait peur, ça. Il dort avec ça.
Eh ben, on m'appelle Pierrot, généralement. J'ai 56 ans. Je suis ouvrier agricole et maraîcher. J'ai des enfants, des amis. Quoi d'autre ? J'aime bien faire des mots croisés aux toilettes. Non, mais mes passions, je cherche mes passions. Mes premières expériences de cinéma... À moi. Donc j'étais vraiment tout gamin, je vais avoir 4-5 ans. Bah, 4-5 ans, je vivais chez mes parents. Ils avaient un logement de fonction au sein d'un hôpital public. Donc j'ai passé une partie de mon enfance dans l'enclos, ce vaste enclos d'un hôpital gériatrique dans un petit bled du Beaujolais. Et tous les mois, il y avait un gars qui venait avec sa fourgonnette pour faire une projection ciné pour les vieux. Mais les vieux, vieux. Hein. Vieux. Ils appelaient ça le mouroir là-bas, c'était affreux. Je me souviens des odeurs de pisse, de morve, des râles. Voilà. Par contre, devant moi, il y a un grand écran. Et là, c'était western, péplum et les films catastrophes. Alors, on n'est pas vraiment dans le film d'horreur, mais les films catastrophes qui étaient subjugués. Hein. Tremblement de terre, la tour infernale, les aventures du Poséidon. Donc voilà, au milieu de ces vieux qui puaient, là, face à tremblement de terre, wow, c'était des sensations fortes. Ça faisait peur aussi. Hein, voilà. Ensuite, il y a eu une autre étape importante dans mon rapport au film d'horreur. Et là, on va être carrément dans le film d'horreur. C'est là où j'ai vu tous les grands classiques. Donc là, je vois 14, 15, 16 ans. Dans ces années-là, à Villefranche, il y avait un cinoche de quartier qui régulièrement organisait ces fameuses nuits de l'horreur. Mais là, c'était des vrais de vrais. C'est-à-dire que t'arrivais à je sais plus, à 7h, 20h, t'avais 4, des fois 5 films, et tu sortais à 7h du matin. Dès qu'il y en avait une, j'allais, évidemment, là, je me suis tout tapé. Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, Suspiria, enfin, tous les grands classiques, quoi. Carrie, Le bal du diable. Mais bon, en fait, les films d'horreur, dès le départ, c'est toujours été un peu la même rengaine dans le genre, comment on appelle ça, survival, là, hein. Un groupe de jeunes super cool qui vont faire une balade en forêt. C'est toujours un peu le même truc. Hein. Alors bon, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de lassitude, parce que je suis toujours quand même curieux de voir un petit peu... ils vont bien en sortir un qui envoie un peu du lourd, qui présente les choses un petit peu autrement. Eh ben j'en ai trouvé un. Alors là, franchement, c'est une trilogie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film, on va dire... épouvantable comme ça, épouvantable. Le 2, j'ai même fait pause, parce que j'avais la gerbe. Je suis allé à la salle de bain, je me suis mis la tête sous l'eau, et j'y allais, t'y retournes, courage. C'était affreux. Enfin, je suis tombé sur Tom Six, qui a fait la trilogie interdite, dégoûtante de The Human Centipede. Un truc scatologique. Je suis fan de cinéma. Je pense qu'il faut tout prendre. Tout prendre. Si on commence à part les films Bollywood, tout prendre. Alors après, on me disait, ouais, mais pourquoi t'aimes bien avoir peur qu'on va au cinéma c'est pour voir des films d'amour, pour rire, pour pleurer, oui, mais aussi pour avoir des jetons. C'est des sensations dont on a besoin. Celui ou celle qui me dit « moi, j'ai pas peur », soit je le crois pas, soit je vais m'inquiéter pour lui quand même, parce qu'il va passer à côté de pas mal de choses. Hein. Un film bien trash, bien gore. Ouf. T'encaisses, hein, tu le sens dans ton ventre, t'es crispé, tu te caches derrière un coussin, tu te reconnais pas, tu flippes, quoi. Juste ça. Après, voilà, moi, j'interprète pas trop. J'interprète pas trop. Là, tu m'y pousses un peu. On peut faire quelques tentatives, mais en fait, je veux pas aller trop loin là-dedans. Je préfère rester sur la sensation, quoi. La sensation pure.
Toi, ça continue à te faire peur ?
Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu Suspiria. J'ai dû le voir 30 fois. Mais il me fait toujours flipper. Hein. Ça crée, ou même ça recrée, ça re-recrée en toi des sensations de peur, mais neuves. Enfin, c'est comme si c'était la première fois. Oui, même des fois... Mais des fois, je réagis mais comme un petit enfant. on se cache derrière ses mains ou derrière un coussin, ça sert à rien. On se dit, oh putain, pourvu que ça finisse, t'as envie de faire accélérer la scène. Alors, je les ai ramenés hier. Donc, ça c'était un vieil ami à mon père. Alors moi j'avais fait ça, je crois. Là, ça, c'est mon père qui faisait ça, il faisait de l'huile. Super dur, l'huile.
Carrément.
Il était chaudronnier plombier, lui. Bon, voilà. Et moi, ce que je voulais te montrer... Alors, puisque je disais, tous ces films bizarres, tordus... je te disais, ça a un petit peu... réapparu dans les quelques peintures que j'ai pu faire. Enfin, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, et j'en ai plus que deux. Eh bien, figure-toi que la partie d'en haut, là, on a un paysage. Un paysage... donc c'est un fleuve qui coule entre deux flancs de montagne. C'est un peu en perspective. On doit être à la tombée du jour, parce que c'est dans les tons un peu, enfin, des couleurs un peu tombées du jour. Et au centre de ce fleuve-là, et en premier plan, on a un îlot, un petit îlot rocheux avec quelques arbres qui poussent. Je l'ai pas inventé, cette image. Je l'ai recopié. Et c'est la première scène du générique où t'as une caméra qui remonte ce fleuve. C'est la première scène de Shining. Bah toi, là, on est pile poil dedans. Bon, moi, j'y ai rajouté un œil là-bas qui observe. L'œil de Dieu, je sais pas, moi. Alors, comme je me suis inspiré d'un film épouvantable, en bas, j'ai demandé à Betsabé, ou Marie-Lou, je sais plus, qui avait 5 ans, de me peindre des petites fleurs. Moi, je collabore toujours. Ça, c'est Marie-Lou, je crois, qui a peint les petites fleurs. Et ça, Balthazar, mon fils, qui a fait un roi, qui on a coupé les mains. Il devait avoir 9 ans.
Tu voudrais être funambule, quoi. Une eau douce ou un dragon. L'idée, parfois... Manger aussi. Quoi ? Quitter la paralysie. Le naufrage de la peur est donc être la bougave, celle qui dénonce. Attention, perte d'équilibre.
C'est mauvais, on change de cap.
Non, on garde le cap.
Peur est gourmande, elle veut tout bouffer, on n'aura plus rien, et on sera encore dans l'eau pétrole qui colle les écoutilles et étoile sur négation. Pas drôle, quoi. Si, non.
Les amours, la tempête s'annonce à ma mort.
Salut toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une lecture de mon texte qui s'appelle « La peur et la curiosité ». On m'a toujours raconté mon premier jour d'école comme une expérience de terreur enfantine. Arrivée dans la cour remplie de dizaines de jeunes humains excités, je m'étais alors retournée pour quitter Fissa, cette marmite, en pleurant très fort, apeurée. Il paraît que j'avais dit que si c'était ça, l'école, non merci. Trop de bruit, trop de gens, trop de cris. Oui. J'avais pourtant grandi jusqu'alors avec deux sœurs, mais j'imagine que l'énergie groupale expérimentée jusqu'alors ne coïncidait pas avec celle de dizaines d'enfants survoltés de tous âges s'activant à vivre ensemble avec plus ou moins de degrés de réussite vu les visages devant moi. C'était flippant. Apparemment, une maîtresse super avait tout de même réussi à me donner plus tard envie d'y revenir et rencontrer ces humains qui, hormis piailler, allaient aussi devenir de formidables compagnons de jeu à aider. La peur est partie, moins celle viscérale de ce territoire tintamarre, mais pas tout à fait celle des autres, restée comme une bougie allumée au fil de mon enfance. Bien qu'en l'écrivant, je sens un décalage entre les mots et l'idée, c'était plutôt la difficulté à composer avec les étranges interactions et logiques alentour. Outre une certaine timidité qui a été longue à être surpassée, ça n'a pas toujours été facile de trouver comment appartenir au monde grouillant des enfants. Mais je me rappelle aussi avoir beaucoup craint les adultes, ces grandes personnes si sérieuses que je regardais avec une certaine trouille, celle, je crois, d'une projection future dont je ne voulais pas pour moi. Il fallait trouver d'autres figures. Comme j'ai beaucoup lu, ça m'a sans doute permis de croire qu'on pouvait aussi devenir ces personnages croisés dans les livres, voire même tout penser. Ce qui est une bonne et une dangereuse chose, continue-je de me dire. Maintenant donc, plutôt qu'exposer la suite de ma modeste existence sur vos ondes, je m'en vais inventer les aventures imaginaires de la petite personne qui m'a habité jadis. Avant l'âge donc où les corps se font forme nouvelle et les cœurs se brisent en d'infinis éclats, laissant pour toujours des tessons dans les interstices des orteils. Elle, entre les cours d'histoire naturelle donnés par des professeurs à lunettes parlant des langues extraterrestres, extraordinaire, s'était glissé dans un chauffe-four et une machine de Jean Tinguely était tombée par hasard dans son cerveau, y imprimant à jamais sa structure. Par passion du catch mexicain catégorie féminine, elle se fit par précaution rajouter des dents, passant ensuite en ballet national en tant que violoniste de remplacement. On avait toujours peur de manquer de ressources, enfin pardon, de personnel. Or, jamais on ne l'appellera et elle oubliera son violon un jour sur le distributeur de billets d'une gare. Elle avait plus tard entamé un cycle de conférences invisibles à travers le monde, se déplaçant en moto de village en village pour partager à voix haute sur des places vides des listes interminables de noms d'insectes en latin, en les invitant ainsi à réapparaître dans les lieux sillonnés. En certains endroits, cela sentait très mauvais, une odeur tenace colonisait les narines, tant qu'il était impossible d'échanger avec les personnes rencontrées. La mañana me venga a salvar cuando vuelva a naufragar. Outre des mains rendues plus dextes entre elles, des jeux insensés de corrida avaient lieu également pour pallier l'absence de langage, engendrant d'horribles blessures aux perdants et des gains grotesques aux parieurs. Une peur planait, celle de l'odeur peut-être. Comme derrière la montagne, l'air était neuf, bien que non moins pollué, elle avait gratté longtemps avec la gomme magique pour en effacer sa marque. La solution avait été finalement de lui faire retirer le poumon droit. À l'anesthésie, elle avait bien cru mourir. Quelle angoisse! Mais c'était plus tard réveillée. Lorsque sous un panneau de signalisation rond et vert, elle s'était fait aborder par la ministre des bons plats et des fausses bosses, sa vie en avait pris un nouveau cours. Il semblait qu'il ne faille désormais plus marcher à moins de 20 cm de la lisière du mur au trottoir, car il abritait de précieux phénomènes piquants. Ainsi, tout était question de déambulation. S'y frotter pouvait induire d'y perdre sa peau. C'était risqué et fatigant. Tout bien réfléchi, vu que nous sommes faits de 80% d'eau et sachant les 7 années de régénération des cellules du corps, elle confectionna patiemment un radeau pour s'accorder avec la liquidatation générale. Après tout, il allait falloir nager encore longtemps, alors autant exercer sa brasse, par tous les temps, même debout et dehors, par 40 degrés sans rivière, tâcher de rester focus. Un matin soudain, les cloches sonnèrent. Elle regarda l'aurore boréale surgir de ce son, et un gnome qui dansait en répétant comme un perroquet bleu cette phrase. La curiosité n'est plus un vilain défaut, ce qu'il est, c'est le déni des tempos. La curiosité n'est plus un vilain défaut, ce qu'il est, c'est le déni des tempos. Ou tempi. Tempi ? Elle sursauta et tomba dans les poires. Au réveil, rien n'était plus pareil. Un de ses bras s'était mis à la place d'une jambe, d'inédites fleurs poudreuses poussaient autour d'elle et faisaient un automne éternel. Ainsi continua sa vie jusqu'à épuisement du contraire. Voilà, une sorte de biographie fictive de cette voix que je suis, ou plutôt qui vous parle, sous l'angle à l'origine de cette émotion basique et primitive, la peur. Est-ce qu'il fallait raconter ça? Je ne sais pas, c'est ainsi. J'avais presque une peur, ces jours, de ne pas réussir à faire quoi que ce soit de cette thématique. Comment partager cette substance qui coule en nous, au gré de nos jours et de nos nuits fines et épaisses, et imprègne tant de nos gestes? La peur, petit mot presque doux s'il n'avait pas cet air final. Quoique ce P qui pète à l'entrée donne déjà un peu une idée de la force percussive possible de la peur dans les situations de nos vies. Activante ou désactivante, voire paralysante, pour le pire ou le meilleur, pouvant permettre par la fuite ou la riposte nos salvations, parfois simple prévision peu propice, du moins le pensons-nous, à nos déploiements, parfois teintée de bien trop de fantomatiques effroissements. À certains moments partagés avec d'autres, donc gonflés en mixture débordante, ou intimement nichés dans l'arbre profond de notre corps, tantôt bonne, tantôt mauvaise conseillère. J'ai décidé que dorénavant je n'allais plus la laisser prendre trop souvent les rênes. Et les rêves, écris mes doigts d'abord. Et oui, c'est ça. Voilà, tout est dit. Ô mes yeux, oiseaux de ma vie, regardez donc comme il est préférable de vous poser sur la branche à côté du petit nœud, sous la feuille protectrice, à bonne distance, selon le moment, de l'ombre comme du soleil. Là où pouvoir s'exprimer, comme un agrume, sans s'épuiser. Tranquillement, lustrez vos plumes, tranquillement, pépiez votre lieu d'observation. Clapez le bec, tenir le poil, frémir un peu. Et hop, vous renvolez dans le grand ciel en suivant vos courants jusqu'au prochain support, d'où considérez la suite. Et puis enfin, je me suis dit que j'allais profiter du potentiel émotionnel de la musique. Alors pour clôturer cette bande-son foutraque, je glisse par-dessous le tapis des mots quelques notes conclusives. Allez, ciao! Du bon à vous et du courage pour le moins bon, ainsi que pour contrer les peurs dont on voudrait se débarrasser.
Sur la rive,
je vous embrasse.
Il neige.
À bientôt.
Je n'ai plus peur de toi.
Voilà que tout le monde, calmé, rappelle la joie.
Sur la
vous avez mangé? Je vais apporter à manger dans ma cabine.
Je
vous êtes sûr d'avoir le moindre
avec toi.
Je fais ce que je veux. Vous auriez une meilleure vue de là-haut, vous savez. Vous avez la trouille. Comme vous voudrez.
Je nage dans la crique sous tes mains.
Donc le problème ou la traque, ce que remue, l'eau bouge, l'émotion révolte car la colère est fâchée. Et alors de vivre que d'être fâché? La solitude ne serait-elle plus si merveilleuse? Ou quand on l'a... On peut écouter? Comment ça, un temps après? Vous êtes constipé? Oh oui, il me manque.
Vous mentez?
Si on peut écouter.
Oh zut, quel est le mot, zut?
Comment ça, un temps après? Oui, vous désirez.
Vous êtes constipé? Peur, oui, tu vois ta tête.
Vous mentez?
Oh zut, quel est le mot, zut?
Oh oui, vous désirez.
Peur, tu vois ta tête.
Oh zut, un enfant
de ma tête.
Un enfant mort, remue.
La tête, c'est ma tête.
Nuit, jour.
Vous êtes toujours à la beauté, le trésor de la lecture, ou le souhait des derniers éveils, la paix, c'est ce marbre là-dedans. Le trésor de la lecture, ou le souhait des derniers éveils, la paix, c'est ce marbre là-dedans. Vous pensez toujours à la beauté, le trésor de la lecture, ou le souhait des derniers éveils, la paix, c'est ce marbre là-dedans. Quel humain faites-vous? Mince, t'as mal à la main.
Alors,
Alors, je suis désolée, j'enregistre ça pile le 11 novembre, avec la cérémonie qui commence à l'extérieur. Donc, c'est peut-être bizarre comme bruit de fond. Chères toutes, je vous écris d'un petit village embrumé, où je suis seule dans le canapé, dans le silence de mon châle enroulé. Le thème lancé ce mois-ci fait bugger mes synapses. Naufrage de la peur. C'est quoi la peur ? La peur, c'est quoi ? De quoi ai-je peur ? Naufrage, pourquoi ? Naufrager est cette peur. Mais quelle peur ? A-t-elle coulé toute seule ? Ou bien a-t-elle subi un sabotage ? Définition d'un naufrage. Perte d'un navire par accident de navigation. Au figuré, ruine totale. Exemple, le naufrage de ses espoirs. Désastre total, ruine matérielle ou morale complète. Naufrage de ses ambitions. D'un naufrage reste l'épave. Quelles peurs en moi sont devenues épaves. Florie, tu nous fais plonger loin dans les profondeurs avec ce thème. Apnée. Ce qui me vient en premier. La peur des autres. J'ai conçu ma vie pour faire en sorte que ma peur des autres fasse naufrage. C'est chose faite. Elle gît comme une grosse épave dans le cimetière des gros boulets. Ce qui me vient en deuxième, la peur des habitudes, de l'enfermement dans sa propre condition. La peur des acquis, des certitudes. Ces peurs sont liées toutes ensemble, compactes. Ce sont des naufrages éternels. Elles refont surface régulièrement, mais je les sabote tour à tour à grands coups de hache. A fait naufrage aussi, la peur de ne pas être comme tout le monde. Pfiout ! Disparue cette peur. En cours de naufrage, la peur de d'écrire, de montrer, de finir d'écrire, de faire lire, de poster, d'assumer ce que l'on dit, d'oser aller jusqu'au bout. Je parle là de la création. D'écrire, en cours de naufrage, la peur de... La peur parfois de ses propres créations. Oser dévoiler un bout de soi, oser croire que l'on a un tout petit peu d'intérêt. Quelle folie ! Naufrage en cours. Il y a des peurs qui ne s'auto-détruisent pas. Ces peurs-là ne font pas collision toutes seules. Alors, méthodiquement, suivant un rigoureux mode d'emploi, un plan d'attaque, je décroche une par une les planches du pont de mon bateau peur. Et quand je suis trop loin, je lance des flèches enflammées vers la proue. Plus tard, peut-être, je scierai le mât de misaine, puis le grand mât, peut-être. Enfin, simplement, un beau jour, à force de petites pluies, l'eau envahira l'habitacle et la structure coulera comme une vieille peau tout au fond de mon cerveau. Mais pour l'instant, je mange du saucisson et je passe le certificat de matelot. Ah ah, quelle chute! Bon baiser de La Rochelle.
Oh, oh. Colère. Père, tu penses que j'ai dû conduire le navire ce matin car je n'ai su écouter les orphelins? Peur, non. Joie, plutôt les bonnes sœurs. Rumination, oui voilà. Colère, et quoi? Joie, bah ça. Nous sommes bien là à nous parler. Tristesse, elles sont tristes. Joie, pour quelle raison? Tristesse, je crois qu'elles aiment quand on s'écoute. Tous ces naufrages les inquiètent car... paraît-il, ça noie la fantaisie. Colère.
J'ai la peur partout dans mon corps. Partout, 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 partout. J'ai la peur dans ma voix. J'ai la peur d'avoir mal réglé mon micro. J'ai la peur partout, 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 partout. Elle est souvent dans les trapèzes, plutôt. Elle descend de temps en temps en bas du dos, mais elle est plutôt... au niveau de la nuque, les trapèzes, elle crispe tout ça, ce qui fait que je suis toujours un peu en avant quand même. Tant en temps je me redresse, est-ce que la peur perd avec ça? Est-ce que quand on traite les symptômes, est-ce que ça traite la cause? J'ai surtout peur d'avoir fait les mauvais choix.
Pourquoi c'est si compliqué de faire des choix? Pourquoi on voit pas ce qu'il faut faire tout de suite? Souvent je pèse le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre. Et ensuite je prends pas de décision. Quand je pense au naufrage de la peur, je pense à l'eau. Je pense à un naufrage évidemment. Je pense à moi au fond de la cascade quand j'arrivais plus à remonter. Parce que j'étais tombée là-dedans. Alors que moi j'ai trop peur de l'eau, je sais pas comment j'ai réussi. En fait, j'étais super optimiste, j'étais en haut de la cascade. Il y avait une petite piscine d'eau de rivière. Et je m'étais dit, ah, je vais me baigner un peu là, j'ai pied, c'est sympa. Et tout d'un coup, c'est même pas tout d'un coup en fait, c'est au fur et à mesure, j'ai senti que le courant m'emmenait. Mais j'ai essayé de m'attraper un peu à partout, enfin d'attraper ce que j'avais autour de moi. Mais je sentais qu'en fait, il y avait de la mousse partout, des algues, et donc en fait, rien ne me retenait. Et après, un peu comme dans les films, j'ai vu mes amis qui ont essayé de me récupérer, mais nos mains ne se sont même pas frôlées, j'ai pas réussi à aller leur prendre la main. Là, je suis tombée au fond de la cascade. Alors, au fond de la cascade, j'étais contente de pas être tombée sur un rocher, puisqu'on m'avait dit qu'il y avait des gros rochers à cet endroit-là, de pas m'être cassé quelque chose. Mais le seul petit souci, c'est que j'arrivais pas à remonter, évidemment, puisque j'avais toute l'eau qui est tombée sur moi, la pression. J'ai un peu cherché à remonter à la surface, mais ensuite, je sais pas si c'était une décision à ce moment-là, je suis pas sûre, mais en tout cas, je me suis laissée aller par le courant au fond de l'eau et j'ai pu remonter à la surface plus loin où il n'y avait pas de pression. Là, tout le monde m'a regardé un peu d'un air interloqué. Alors voilà, donc moi, quand je pense au naufrage, je pense à être au fond de l'eau. Mais malheureusement, la peur n'est pas partie ce jour-là de ma vie. Mais bon, peut-être qu'en fait, il faudrait que j'arrive à m'inspirer de ce moment où j'ai suivi le courant au fond de l'eau, un peu désespéré, on va dire. Et ça m'a réussi à ce moment-là. Mais sur Terre, je sais pas comment on suit le courant. Je sens pas bien les courants d'air. Je sais pas. Je sais pas comment cette peur, elle sort. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouverte à toute proposition. Gilet de sauvetage, canot de sauvetage, bouée. Je prends tout pour sortir de l'eau. Ou pour rentrer dans l'eau finalement. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être plus facile sous l'eau de se laisser aller. Ça fait quand même sacrément mal au trapèze d'avoir peur. Moi, avant, je croyais que la vie, c'était ça. C'était normal, en fait, d'être tout le temps tendu. C'était l'anxiété générale, c'était normal. Quand j'étais enfant, je me disais, c'est ça, c'est la vie. C'est qu'après que je me suis dit, c'est peut-être pas complètement viable pendant tout ce temps, jusqu'à la fin de la vie, d'être si crispé partout. J'ai beau faire les exercices de respiration, ça marche rarement. Hein. Souvent, même quand je fais mes exercices de respiration, ça me rajoute une boule dans la gorge. Comme si je me disais, puisque je fais ces exercices, il faut que je n'ai plus d'anxiété. Il faut que je sois moins stressée. Donc ça me rajoute une autre pression. Je me dis, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Pourtant j'ai fait les exercices, j'ai respiré comme il fallait. C'est pire. Quand j'essaye de faire du sport, je culpabilise de ne pas arriver à faire du sport, puisque de toute façon, ça tient quelques jours. Comment sortir du naufrage de la peur? Enfin, normalement, le naufrage de la peur, ça devrait être quelque chose de positif, mais ce mot naufrage, Pour moi, il est trop catastrophique. Il me fait trop penser à mes cauchemars de tsunami et de grosses vagues où je vois tout le monde mourir. Alors ce mot naufrage, j'y arrive pas. La disparition de la peur. Déjà, ça vous paraît pas mieux, vous ? La disparition mystérieuse de la peur. Peut-être qu'on ne saura jamais comment elle est partie. À vous les studios, pour la continuité du naufrage de la peur.
Voilà que tout le monde, calmé, rappelle la joie. Voilà que tout le monde, calmé,
l'amour est une fourmi,
rappelle la joie.
Semble donc,
peur,
quand les émotions sont dépassées,
prendre la part dont naufrage arrive,
peur,
avaler
peur, peur.
Peur,
peur,
peur, peur, prendre la part dont naufrage arrive.
La machine à laver,
peur,
parfois même le sèche-linge.
Peur, vient prendre la part dont naufrage arrive.
Ce déluge, l'opale et la nacre.
Peur, peur, vient prendre la part dont naufrage arrive. Peur, 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 vient prendre la part dont naufrage arrive.
Du coup, moi j'ai peur. J'ai pas trop les envies de le dire, mais je le dis quand même. J'ai peur de la tempête.
Tempête, tempête, tempête.
Et vous, vous savez c'est quoi de la tempête? C'est ça. Comme ça.
Par exemple, les changements de comportement par rapport à la peur, par exemple, de l'humain. Comment on étudie si un oiseau, tout à coup, il se met à avoir moins peur de...
En fait, c'est toujours une question de... Donc, alors par exemple, l'histoire de la peur, c'est qu'il y a sur beaucoup d'îles dans les océans, il y a des énormes problèmes d'extinction d'espèces parce qu'elles n'ont pas peur. Elles sont venues s'installer là. Il y a des migrants qui sont venus sur cette île, ils se sont installés et elles ont évolué, elles ont perdu cette peur parce qu'il n'y avait pas de prédateurs. Alors, typiquement, le dodo. Le dodo, quand les marins sont arrivés sur l'île de Maurice, ils avaient peur de rien, ils se sont fait tuer à coups de bâton. Donc en fait, ils avaient perdu cette peur. Et en fait, on peut comparer différentes populations selon la pression de sélection qui a été exercée par des prédateurs ou pas. En fait, il faut imaginer que les mésanges, elles vivent dans un monde. D'ailleurs, en anglais, on parle de paysage de la peur, de landscape of fear. C'est-à-dire que pour ces oiseaux-là, ils sont constamment des proies. Mais en fait, ça peut être en ville, ça peut être des chats, des renards, des corneilles. Si une corneille voit une mésange qui est affaiblie ou qui peut pas voler parce qu'elle est blessée, elle va, il y a pas de pitié. Elle se dit voilà, elle va aller la tuer, la consommer. Donc en fait, il y a ce landscape of fear qui va façonner comment les oiseaux vont se comporter. Enfin, c'est vrai pour les oiseaux, mais c'est vrai aussi pour d'autres animaux. Enfin, tous les animaux. Et donc, selon qu'il y ait des pressions de sélection intenses par des prédateurs, ils vont modifier leur comportement.
Taisez-vous ! La tempête s'annonce à bâbord.
Et la grosse tête en forme de lune, détrempée comme un clown sous une cape de pluie rouge, passe la porte, tandis que le collectif faisait chorale.
Chères toutes, je vous écris depuis la ville de Palerme, où un brouhaha constant m'accompagne, des vrombissements, des klaxons, des exclamations dans les cages d'escalier, et une musique toujours de l'autre côté du mur. Je suis retournée voir mes amis italiens, esprits chimériques, irascibles rats des villes, que j'ai quitté il y a tout juste un an. J'ai apporté avec moi une caméra. Ils en ont profité, encore une fois, pour changer de vie et se travestir. Et on s'est vite perdu dans des discussions alcoolisées dans les bars et dans la douce inertie palermitaine. Nous sommes en novembre et le fond de l'air est tiède et enveloppant. Les cocktails sont servis dans de grands verres et la lumière dorée des lampadaires est familière. Mais ce matin, je me réveille vaseuse et la tête lourde. Et je me demande ce que je fiche encore ici à Palerme. Je perds le sens. Je me sers un grand verre d'eau. J'hésite à y mettre un efferalgan, mais j'ai le stomac vide. Je fouille dans mon sac et je prends mon agenda comme s'il avait la réponse. Mais les pages des prochains jours sont vides. Ça me déprime. J'ai peur du blanc des pages de mon agenda, de mes carnets. Le blanc des pages de mes scénarios, des mails que je devrais envoyer. Le blanc de mes chemises me stresse car je les tâche. J'ai peur du blanc, enfin, j'ai peur du vide. Je décide de sortir dans le centre-ville et la lumière blanche m'aveugle. Je retrouve mes amis au bar qui visiblement n'ont pas bougé et je commande un café. Je me sens pas dans mon assiette. Le lendemain de cuite, j'ai toutes mes angoisses qui remontent. J'ai peur du vide, j'ai peur de la précarité quand je serai vieille, j'ai peur du manque de nuances, j'ai peur du futur. J'ai peur des guerres et des frontières, du déni face au changement climatique. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de pas y arriver.
Ho paura di soffrire. Poi ho paura di essere umiliata. E poi ho paura di essere scoperta, che tutti scoprono che ho preso in giro tutti. Due altri qui. Je ne parle pas français. Je sais dire ce mot.
Travagliata però questa cosa.
Come fa?
Bello.
Io non so che cazzo.
Ma la devi dire, come la dici? Scopri
che si accorgono che io in realtà non so lavorare, tipo.
Di che cosa hai paura?
Ultimamente ho paura di cadere dalla bici, di avere un accidente in bicicletta.
Tu peux le dire en français ou pas?
Oui. Et dans les derniers temps, j'ai un peu de peur de tomber de mon vélo. J'ai vu mon vélo et j'ai dit, je peux tomber n'importe, dans quel moment, tu sais. Et aussi, je suis très heureux dans ce moment, dans ma vie. Moi, je sens que c'est très fragile. Donc, j'ai peur de ça. Parce que si j'habite à Palerme, et ici, les gens, ils conduisent très mal. Et oui, j'ai peur d'avoir un accident, un vélo.
Peur de décevoir? Peut-être. De ne pas être à la hauteur des attentes des gens qu'ils ont sur moi.
J'ai peur de mourir brûlée vive. J'ai peur de mourir asphyxiée avec pas de l'air. Et j'ai peur de faire un travail en bureau tous les jours de ma vie.
Il semble qu'elles aiment l'idée d'être engagées dans le prendre soin du monde.
Nous sommes debout aujourd'hui, c'est que nous avons déjà gagné une première bataille, c'est de ne plus jamais nous taire. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on se donne nous-mêmes ce qu'on ne donne jamais, presque jamais, un tonnerre d'applaudissements.
Bonsoir à vous tous, bonsoir à nous toutes. Je m'appelle Komokoli Régine, cofondatrice du collectif CUNE. Comme mes camarades ici, je prends la parole au nom du collectif et du réseau des clandestines. Des femmes qui s'organisent dans l'ombre, dans les quartiers populaires, dans les hôtels sociaux, dans les foyers, pour que plus aucune d'entre nous ne soit seule face à la violence. Aujourd'hui, je vais commencer par un nom, Marie. Marie, notre copine, notre sœur, assassinée à Villejean devant ses enfants. Une femme solaire, une femme vivante, une femme aimante. Elle aurait dû être là aujourd'hui. Elle aurait dû vieillir comme nous. Elle aurait dû voir ses enfants grandir. Mais la violence lui a tout pris. Nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublions jamais. Chaque fois que nous parlons des violences faites aux femmes, Marie se tient à côté de nous. Je souhaite rappeler que ce combat dépasse largement le cadre symbolique d'une date sur le calendrier. C'est un cri, un appel à la conscience, un engagement renouvelé pour que plus aucune femme ne subisse la violence. Une lutte quotidienne, une vigilance permanente et une solidarité sans faille pour celles qui subissent ou qui ont subi des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques et institutionnelles. Notre association est née d'une nécessité, celle de rompre le silence et de redonner une voix à celles qui ont trop longtemps ignorées. Chaque femme que nous rencontrons porte en elle une histoire toujours marquée par la peur, la honte ou la solitude. Mais derrière ces blessures se cache une force immense, une volonté de vivre et de reconstruire. J'ai moi-même connu ce silence et cette douleur. Aujourd'hui, je transforme cette expérience en engagement pour que plus jamais qu'une femme ne se sente seule face à la violence.
Elle s'appelait Monique, à Rennes. Tatiana, à Saint-Jouan-des-Guérets. C'était Émilie, à Rennes. Elles sont mortes cette année, tuées par des hommes. Tuées parce que femmes. Ce 25 novembre, comme chaque année, nous marcherons pour elles et pour toutes les autres tuées en France depuis le début de l'année. Nous ne voulons plus compter nos mortes.
Elle s'appelait Lorraine. Elle avait 15 ans. Elle était lycéenne et elle avait la vie devant elle. Pourtant, elle a été assassinée de 57 coups de couteau dans sa salle de classe, à Nantes, par un jeune garçon de son âge. Celui-ci, dans son communiqué de revendication, abordait notamment des thèmes fascistes et était connu comme « adorateur d'Hitler ». La question de la santé mentale des jeunes demande une action de grande ampleur. Mais il faut aussi adresser la hausse du sexisme chez ceux-ci, car ces idées réactionnaires et masculinistes qui gangrènent notre jeunesse et notre société tuent. Nous pensons notamment à Mélanie, AED, 31 ans, tuée par un lycéen, ou au projet d'attaque masculiniste stoppé in extremis dans la Loire en juillet.
Elle s'appelait Caroline Grandjean. Elle était directrice d'une école primaire, fonctionnaire de l'État, reconnue publiquement pour ses qualités dans le métier. Caroline était aussi en couple avec une femme, mais ça, c'était sa vie privée. Pourtant, sa vie a basculé quand elle a été victime d'harcèlement lesbophobe récurrent. La violence des mots est venue s'inscrire à répétition sur les murs de son école. Caroline a parlé, s'est battue, a dénoncé. L'État n'a pas été en capacité de la protéger, de protéger une de ses agentes contre les discriminations qu'il est censé combattre. La haine a fini par être la plus forte et Caroline est morte le jour de la rentrée des classes.
Elle s'appelait Émilie. Elle avait 36 ans. Elle est morte à Rennes ce lundi 27 octobre. Battue puis étranglée. Elle hébergeait un homme, un ancien voisin, chez elle depuis début septembre. Quelques semaines plus tard, elle a dû faire appel à la police pour expulser cet homme qui avait pris possession de sa maison et l'avait mise à la porte. Mais il est revenu le soir même, l'a frappée et quelques jours plus tard l'a assassinée violemment. Émilie, comme deux victimes sur trois, connaissaient son agresseur.
Salma.
Alexandra. Une femme.
une adolescente.
Géraldine.
Une femme.
Une femme.
Maria.
Une femme.
Christelle.
Une femme.
Une femme.
Une femme. Manon.
Maëva. Amandine.
Une femme. Nina.
Une femme.
Une femme.
Agnès.
Monique.
Solange.
Sandy.
Une femme.
Élise.
Une femme.
Une femme.
Gaëlle.
Louise.
Dawn.
Elena.
Laurie.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une fille.
Une femme.
Régine.
Agathe.
Une femme.
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 Inès.
Lucia.
Une femme.
Marie-Madeleine.
Alicia.
Une femme.
Laetitia.
Lucienne.
Claudine.
Nathalie.
Une femme.
Isabelle.
Mélanie.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Méline.
Sandy.
Une femme.
Nasrine.
Antoinette.
Sonia.
Estelle.
Nadine.
Céline.
Larissa.
Perrine.
Une femme.
Une femme.
Emma.
Diana.
Angela.
Cécile.
Madame N.
Vanessa.
Véronique.
Adeline.
Une femme.
Une femme.
Claire.
Une femme.
Une femme.
Sylvie.
Mélodie.
Lisa. Une femme.
Une femme.
Jacqueline.
Mélanie.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Simone.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Maria.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Gaëtan.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Nelly.
Une femme.
Nathalie.
Une femme.
Une femme.
Jessica.
Une femme.
Armella.
Une femme.
Une femme.
Tatiana.
Une fille.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme.
Une femme. Inès.
Une femme.
Raymond.
Une femme.
Laure.
Marie-Noël.
Élodie.
Mélena.
Béatrice.
Simona.
Et maintenant quelque chose de complètement différent. Je vais vous passer des extraits de films d'horreur et vous allez essayer de deviner de quel film il s'agit. C'est un quiz scary ciné.
Avocat ?
Alors dans cette scène, on entend le doubleur
Avocat.
De Robert De Niro.
C'est toi ?
Dans sa version française, qui joue le rôle de Max Cady,
un ancien détenu
qui vient de sortir de prison et qui cherche à se venger de son avocat et qui commence à harceler et terroriser la famille de l'avocat. Vous avez reconnu le film ? Donc c'est Nerf à vif, capture. Dans cette scène, on voit une femme qui prend une douche. Et soudain, à travers le rideau, Une silhouette féminine apparaît et la poignarde. On entend les cris stridents des violons de Bernard Herrmann et il y a un montage ultra rapide qui n'en montre jamais vraiment la lame, mais qui crée une intense illusion de violence. On voit ensuite l'eau mêlée au sang qui s'écoule dans la baignoire et l'œil mort de Marion, la protagoniste. Vous avez reconnu Psychose d'Alfred Hitchcock, 1960. Dans cette scène, on voit un prêtre qui entre lentement dans une chambre glaciale où une fille en robe de chambre est attachée au lit, le visage déformé, la peau verdâtre, couverte de cicatrices, les yeux jaunes. Le prêtre essaye d'interroger cette jeune fille possédée. Elle déplace un meuble par télékinésie. Elle parle en latin avec une voix inhumaine et très grave. Puis il lui montre de l'eau bénite et elle réagit violemment. C'est l'exorciste, sorti en 1973 de William Friedkin. On reste dans le thème du diable. La protagoniste, affaiblie par son accouchement, se réveille seule dans son appartement. On lui fait croire que son bébé est mort, mais elle entend des voix étouffées qui proviennent de la pièce voisine. Si elle découvre ses voisins, son mari et d'autres membres d'une secte satanique rassemblée autour du berceau noir, elle s'approche de l'enfant et pousse un cri d'horreur, car le bébé a les yeux et les traits du démon. Tous les adeptes commencent à crier et proclament que son fils est l'Antichrist, le fils de Satan. D'ailleurs, il y avait un petit indice au début, on entend le nom de la protagoniste, Rosemary. Et le film, c'est Rosemary Baby de Roman Polanski.
Les menstruelles, correspondance éclatée à X voix. On sort la tête de l'eau pour finir cette émission. Vous avez entendu le dernier épisode proposé par les menstruels, Naufrage de la peur. Pour retrouver des émissions de leur collectif, rendez-vous dans les archives de gymnastique sonore sur canalb.fr. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.